Avec cette question, l'opération Angeline est-elle purement interne ou a-t-elle un caractère géopolitique international? Eh bien, c'est toute la question qu'on s'est posée avec Daniel Haber. Et on se rend compte que même si l'activité diplomatique actuelle semble calme, cela ne signifie pas non plus qu'il ne se passe rien. On décrypte également le caractère, je vous le disais, politique de l'opération de Tsahal à Jénine. Voici l'avis de Daniel Haber au micro, bien sûr, comme d'habitude, d'Asley Santoro.
Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Asley, bonjour chers amis.
Ravi de vous retrouver dans le cadre de nos conversations, Daniel. Et à l'heure actuelle, on ne sait pas vraiment pourquoi, peut-être parce qu'on est en juillet, que c'est le début des vacances, mais on dirait bien qu'il n'y a pas de grands événements géopolitiques dans ce monde pour le moment. Est-ce que ça veut dire, quand bien même, qu'il ne se passe rien en ce moment, Daniel?
Oui, c'est une vraie question. En fait, on est obnubilé, y compris dans nos conversations, par les grands moments, les événements. Alors, ces événements, c'est les rencontres. On en a beaucoup parlé. Blinken qui va voir Xi Jinping. Les grandes déclarations, les traités, l'accord d'Abraham, les sanctions, les embargos, les guerres. Voilà, ça, c'est des grands événements géopolitiques. Mais c'est pas ça. À quoi se résume la géopolitique? Parce que la géopolitique, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est le temps long. Et donc, derrière ces grands moments, il y a en fait une négociation permanente, il y a une diplomatie permanente qui est en cours et sur laquelle on n'a jamais eu l'occasion de parler. Et je voudrais dire deux, trois mots sur, au fond, ce qui se passe et qui prépare ces grands événements. C'est au fond la diplomatie qu'on peut appeler souterraine. Elle est officielle, mais elle est souterraine. Et en fait, tous ces grands événements géopolitiques, ils se préparent par trois canaux différents. Vous avez d'abord la diplomatie des États, la diplomatie officielle. Et là, il y a un grand changement, au fond, depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est lié à la révolution des transports. Aujourd'hui, ce sont les chefs d'État qui sont les meneurs de la politique internationale. C'est eux, les vrais ministres des Affaires étrangères, chefs d'État ou chefs de gouvernement. Et donc cette diplomatie-là, on la voit, on la connaît. Puis derrière, il y a évidemment la diplomatie des ambassadeurs, des experts qui préparent ces grandes visites d'État, etc. Donc ça, c'est la diplomatie qu'on connaît, qu'on peut lire dans les journaux et que sur lesquels je ne veux pas insister. Mais il y a une deuxième diplomatie qui est vraiment la diplomatie secrète. Et le meilleur exemple qu'on peut trouver, c'est Israël, le Mossad. Qu'on croit être une organisation qui a pour but de faire des grands coups à l'étranger, des attentats ou déjouer des attentats ou enlever des gens comme ce fut le cas pour Eichmann ou faire des assassinats ciblés ou faire des cyberattaques. Tout ça, c'est une grande partie de l'activité du Mossad. Mais il y a une deuxième partie qui est pas connue et qui vient d'être révélée au grand public et je vais en parler en deux mots. C'est la diplomatie secrète menée par le Mossad au nom de l'État d'Israël. Mais il y a un troisième niveau de diplomatie qu'on connaît, mais qu'on n'a pas analysé comme une diplomatie, mais qu'en est une. Ce sont ces grands forums internationaux, souvent réguliers. Alors, quand Blinken est allé à Pékin, c'était fin juin, début juillet, il y est allé au même temps qu'il y a eu le début d'un grand forum qui s'appelle le World Peace Forum, le Forum mondial de la paix, et qui se tient chaque année à Pékin dans l'université, dans une des grandes universités de Chine, qui s'appelle Tsinghua. Et là, le think tank de cette université prépare un grand séminaire sur ce qui se passe. Et on aura l'occasion de parler parce que ce dont ils ont discuté, c'était un peu la teneur des discussions entre Blinken et ses homologues et avec Xi Jinping. C'est-à-dire, au fond, où va la confrontation avec les États-Unis. Mais vous avez aussi Davos. Davos, chaque année, est un grand événement qui a été construit, en fait, au début pour des hommes d'affaires. Puis très vite, des experts sont ajoutés. Très vite, des conseillers gouvernementaux sont venus. Puis maintenant, les chefs d'État viennent. Xi Jinping, en 2019, est allé dire « Gardons la globalisation, ne faisons pas une déglobalisation, gardons-la. » Donc, on voit bien qu'il se passe des choses importantes dans des forums comme cela. Et Au fond, c'est là peut-être que naissent des grandes idées qui sont ensuite traduites dans les négociations entre États. Donc voilà cette diplomatie qui est toujours à l'œuvre et qui est à l'œuvre aujourd'hui. Hein, quand vous dites qu'il ne se passe rien, non, il se passe rien apparemment, mais tout ça est en train d'être discuté. Il y a des évolutions qui vont un jour surgir et qu'on verra apparaître. Moi, j'ai la chance de participer à ces forums et donc je vois un peu ce qui se prépare et on en parle dans nos conversations.
Alors Daniel, on comprend donc bien que ce n'est pas parce que on a l'impression qu'il ne se passe rien, qu'il ne se passe réellement rien. On voit quand même qu'il y a des choses qui se passent. Alors nous, sur Radio Judaïka, il y a un événement qu'on a largement traité, c'est l'opération des forces de Tsahal à Jenin, en Judée-Samarie. Alors Daniel, pour vous, est-ce que cette opération est purement interne à Israël et à la Judée-Samarie, ou bien on voit qu'elle a tout de même un caractère plus géopolitique, plus international?
Bah, très, très, très clairement, il y a un caractère international, ne serait-ce que parce que ça se passe en Judée-Samarie, qui sont des territoires contestés. Oui, ça, c'est un caractère géopolitique, notamment par l'origine de cette intifada et par ses conséquences. L'origine de l'intifada, on la connaît maintenant, c'est l'Iran. Donc voilà, c'est une véritable opération géopolitique menée par l'Iran. L'Iran voit bien que on ne signera pas d'accord sur le nucléaire. Les sanctions vont continuer à s'appliquer. Et on voit bien que l'Iran en a pris son parti depuis déjà très longtemps, un, en poursuivant évidemment la construction de sa bombe, et surtout en se rapprochant des ennemis de l'Occident, c'est-à-dire de la Russie et de la Chine. Donc c'est clair, et de son côté, Israël se prépare à des actions, entre guillemets, et au fond, la seule chose qui retient Israël de passer à l'action, c'est le soutien américain, et donc ce soutien américain, lui aussi, va s'analyser plus tard en fonction de ce que veulent faire les Américains avec les Iraniens. Ils donnent l'impression aujourd'hui encore de vouloir négocier, même si on sait que c'est purement superficiel. Donc ça, l'origine, c'est bien l'Iran, donc c'est bien un problème géopolitique. Mais les conséquences de cette intifada et des opérations israéliennes sont des conséquences géopolitiques. Alors déjà, on voit bien que l'Occident ne critique pas Israël. Il n'y a pas eu d'État occidental qui a critiqué Israël pour l'opération de Jenin. Au contraire, hein, il y a côté américain un soutien, ce qui est assez rare. Les seules critiques sont venues d'ONG, d'organisations internationales qui sont pourries par une extrême gauche anti-israélienne et antisémite. Donc, ça n'a pas la même importance que des condamnations occidentales. La France a été silencieuse, d'autant qu'elle vivait sa propre intifada. Les émeutes des banlieues, c'est une intifada. La différence avec la France, c'est que cette intifada, on ne sait pas l'analyser, on la comprend pas, on n'arrive pas à trouver des raisons, etc. Et on n'a pas de solution à apporter. Alors que Israël, avec cette opération de Jenin, a apporté une solution. Je crois que elle sera efficace. On voit bien par les réactions des Palestiniens qu'elle a été efficace. Et si vous voulez, tout ça participe quand même. Et alors là, il faut élargir la réponse à cette grande confrontation mondiale des deux camps. Au fond, les camps autoritaires, Chine, Russie, maintenant avec l'Iran, prend conscience avec ces intifadas israéliennes et françaises, avec également ces manifestations en Israël à propos de la Cour suprême, d'une sorte d'auto-affaiblissement de l'Occident. C'est-à-dire que l'Occident n'arrive plus à gérer ses propres problèmes, et donc les critiques, par exemple sur la démocratie, elles sont internes à l'Occident. C'est l'Occident qui se critique lui-même. Donc la démocratie, elle peut plus être vraiment brandie. Les droits de l'homme, c'est très compliqué à les conserver. Regardez avec la mort de ce jeune qui conduisait une voiture en France et qui a déclenché toutes ces émeutes. Et puis, l'état de droit qu'on met en avant. Comment voulez-vous qu'on brandisse l'état de droit face aux États autoritaires quand nous-mêmes mettons en cause nos propres cours suprêmes? C'est le cas en Israël, mais c'est le cas aussi aux États-Unis, c'est le cas aussi dans beaucoup de pays européens, y compris la France, pour la Cour constitutionnelle. Rappelez-vous des grandes émeutes suite au 49-3 français. Donc, si vous voulez, cet auto-affaiblissement de l'Occident donne des ailes aux ennemis de l'Occident et donc renforce leur contestation, celle dont on parle à chaque conversation. Et donc cette contestation, ben, elle va durer, on peut dire, elle va être renforcée par cet affaiblissement de l'Occident dont on est nous-mêmes responsables.
Alors Daniel, dernière question. Cette situation que vous nous décrivez, elle est assez inédite. Qu'est-ce que ça nous dit finalement en conclusion de la situation mondiale actuelle?
Écoutez, ça, pour être très, très bref, hein, parce qu'on en reparlera, je pense, dans une autre conversation, je dirais que, souvenez-vous, la semaine dernière, on avait parlé des pays tiers. On avait dit combien ils étaient importants. D'abord, c'est l'ensemble du monde, pratiquement, c'est plus de 190 pays, qui regardent cette contestation et qui, au fond, est en train d'évaluer le modèle chinois à côté par rapport au modèle occidental. Et ils ont le nombre. Ces pays tiers. Par contre, ils n'ont pas la puissance militaire, économique, etc. Mais ils ont le nombre. Et donc, c'est entre cette ambivalence, le nombre et la puissance, que finalement, cette contestation sera jugée par les pays tiers. Et c'est ça qui va dicter, je pense, une partie de l'évolution de cette contestation. C'est ces pays tiers dont on parlait. Donc, je pense que c'est tellement important qu'on peut prévoir une conversation entre nous sur ce sujet important de l'évolution de la contestation par rapport à tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui.
Évidemment, Daniel, on aura l'occasion d'en reparler avec vous dans le cadre d'une prochaine conversation. Merci beaucoup pour vos éclairages. On vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.